France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Cinéaste, plasticien, metteur en scène depuis une quinzaine d'années, l'œuvre de Clément Cogitor navigue à la croisée des supports et des formats. Mais l'image est toujours au cœur de son travail et avec elle, il explore nos mythologies contemporaines et notre besoin d'histoire collective, que ce soit dans sa mise en scène acclamée des Indes Galantes à l'Opéra de Paris ou dans son film Goutte d'or sorti en 2022. Aujourd'hui, il nous emmène à la découverte du Nil dans une exposition au MUCEM à Marseille. Clément Cogitor est dans les midis aujourd'hui. Bonjour Clément Cogitor.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture. Alors vous exposez, on l'a dit, au MUCEM à Marseille. Le MUCEM, il faut le rappeler, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est donc un lieu très particulier pour l'histoire, mais aussi pour les enjeux contemporains de cette région. Il y a des lieux d'exposition, j'imagine, qui sont plus chargés que d'autres. Qu'est-ce que représente le MUCEM pour vous, cet espace-là ?
Ben, c'est une grande joie de pouvoir monter ce projet, de pouvoir le montrer à Marseille et au MUCEM, là, en ce moment. En fait, le projet avait déjà été monté au musée Madre à Naples. Mmh. Et pour la première exposition en France, je voulais absolument un lieu qui fasse sens avec le projet. Et le MUCEM, c'était l'endroit vraiment, vraiment idéal. Enfin, avec le temps, en fait, finalement, la question des lieux où, comment et où on monte notre travail prend de plus en plus d'importance. Et je trouve que les images n'apparaissent pas de la même manière en fonction du contexte. Et là, on est à Marseille, dans un bâtiment qui est magnifique, le grand bâtiment en verre, mais on passe la passerelle et on est sur l'esplanade. Et c'est un bâtiment plus ancien qui donne vraiment sur l'horizon, sur la Méditerranée. Et pour déployer cette histoire-là, c'est le lieu rêvé en France. Quoi.
Oui, et puis il y a toute l'histoire de Marseille qui remonte à l'Antiquité, évidemment. Et bien sûr, cette histoire du Nil ancienne, ça fait écho complètement, c'est l'Atlantide presque.
Ouais. Alors le projet s'appelle Ferdinandea, l'île éphémère, et c'est un des cinq noms qui a été donné à une île volcanique dans le canal de Sicile, qui en fait a émergé plusieurs fois au cours de l'histoire et n'a jamais vraiment tenu, quoi. La dernière occurrence, c'est au début du 19e siècle, et c'est un super volcan sous-marin qui est entre la Sicile et la Tunisie. Mm-hmm. Et en fait, la pointe, une des pointes en tout cas de ce super volcan, est entrée en éruption et a donné lieu à une petite île. Entre Malte et la côte sud de la Sicile, et c'était en 1831 exactement. Mmh. Et à un moment donné où en fait toutes les puissances impériales et coloniales sont en train de prendre le contrôle de la Méditerranée, c'est-à-dire que les Anglais sont à Malte, il n'y a pas encore l'Italie, c'est le royaume des deux Siciles, les Français viennent d'arriver en Algérie, tout le monde a des vues sur la région, et c'est un point extrêmement géostratégique à l'époque, et maintenant ça a pris une dimension encore plus explosive, quoi. Mmh. Et donc passer, disons, un peu la surprise, la peur, enfin comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en mer, petit à petit les empires envoient des bateaux avec des expéditions avec des marins, des militaires, des artistes, des scientifiques pour prendre des extraits, cartographier, nommer, poser un drapeau, ainsi de suite. Mais petit à petit, cette île va exister 6 mois, et en fait il n'y a pas eu de formation rocheuse assez stable pour que l'île puisse exister comme il en existe d'autres sur la planète, des îles volcaniques qui ont tenu. Et petit à petit, elle va s'effondrer sous les vagues, et aujourd'hui elle est à entre moins 6 et moins 8 mètres sous le niveau de la mer. On sait que dans un futur volcanique proche, c'est-à-dire dans quelques années comme dans quelques siècles,
elle pourrait réapparaître. Voilà. Le titre, il est magnifique, le titre de cette exposition, Ferdinandea, l'île éphémère. Tout de suite, on est dans un voyage, ça pourrait être Jules Verne qui s'est d'ailleurs intéressé à cette île. Est-ce que d'une certaine façon, vous vous placez un petit peu dans les pas de ces récits aussi, d'explorateurs, d'aventuriers, qui sont aussi matinées de fantastique, de toute façon.
Oui, complètement. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à me mettre un peu dans la lignée un peu de ces artistes explorateurs, mais c'est une tradition qui existe aussi dans l'art contemporain depuis, particulièrement aussi de la vidéo, quoi. Mmh. D'aller poser sa caméra dans des terres assez reculées et de pas produire un récit purement documentaire, mais une expérience, un partage du sensible, quoi. Et donc ça, c'était assez naturel. Et puis il y avait aussi l'idée, ce qu'on retrouve un peu au MUCEM, de l'idée d'une expo un peu en Wunderkammer, quoi, une sorte de cabinet de curiosité avec l'équipe des commissaires d'exposition. Donc à Marseille, c'était Catherine Vert, Enguerrand Lascolles et Elia Polkner. On a exploré beaucoup de collections, mm-hmm. de musées d'histoire naturelle, de galeries, enfin à Berlin, à Paris, à Palerme, à Naples. Et en fait, on a retrouvé jusqu'à Londres des fragments de cette île, des traces, enfin des petites cartes, des dessins, des carnets de navigateurs, de capitaines de bateaux. Et alors à Marseille, on présente plutôt encore plus d'œuvres et de documents d'archives. Plutôt orienté du point de vue français, à Naples c'était plutôt du côté italien, mais sur comment à l'époque on a les histoires qu'on s'est racontées, la propagande qu'il y a pu y avoir, des éléments scientifiques, enfin un certain nombre de niveaux de récits qui se croisent pour essayer de délimiter un peu ce nouveau territoire qui est apparu.
Et comme vous le disiez, les artistes se sont beaucoup intéressés à cette île. Il y a dans cette exposition des superbes gravures de ce qu'ils ont essayer de montrer de cette île. Pourquoi les îles fascinent autant, et en particulier les artistes d'ailleurs ?
En fait, elles deviennent assez vite la métaphore de quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme une scène de théâtre, c'est le monde, mais en tout petit. Et du coup, les choses deviennent plus facilement observables. Et puis, je pense que la dimension un peu aventureuse, Alexandre Dumas écrit sur l'île, Walter Scott était un des derniers visiteurs à mettre le pied sur l'île. En fait, l'île était déjà en train de s'effondrer. Son médecin l'avait envoyé d'Écosse à venir en Méditerranée parce qu'il avait des problèmes de poumons. Il devait rester au calme et respirer. Et il a rien trouvé de mieux à faire qu'embarquer sur un bateau qui allait voir cette espèce d'enfer. L'île était à peine... elle est restée pendant longtemps très chaude avec des vapeurs de soufre. Et il y a eu un temps très court où elle était, disons, à peu près habitable. Et puis ensuite, elle a commencé à se désintégrer, quoi. Et donc, il arrivait à ce moment-là où en fait, tout s'effondrait. Il raconte ça dans les dernières pages de son journal. Après, il est rentré en Écosse et il est mort quelques semaines plus tard. Et du coup, il y a une espèce d'imaginaire. On sent que ça a inspiré beaucoup de monde. Et voilà, j'étais contaminé par cette...
Mais justement, voilà, ce phénomène. Cette île, elle est fascinante, comme vous le disiez. Elle apparaît, elle reste quelques mois, elle disparaît. Là, elle est en train de remonter un peu. Bon, voilà. Et vous avez bien expliqué qu'à cette époque-là, au XIXe siècle, elle est vraiment l'objet de toutes les attentions, géopolitiques également, avec effectivement l'Angleterre, l'Italie, la France qui cherchent à s'en emparer. Il y a des moments assez drôles d'ailleurs dans le film où ils plantent tous un drapeau et le drapeau brûle. Enfin bon. Mais vous, Clément Cogitor, quelque part, dans cette démarche que vous avez de croiser en plus tous les discours qu'il y a pu y avoir, les légendes, les récits, c'est aussi, de votre part, une façon d'essayer de la conquérir aussi, cette île.
Alors la conquérir, je ne sais pas, mais en tout cas de la faire exister dans l'imaginaire des spectateurs et spectatrices qui feront l'expérience de l'exposition. Et disons que dans l'assemblage de fragments de texte, parce qu'en fait, disons, l'exposition est construite autour d'un film central, qui est dans un espace noir qui est au milieu de l'exposition, et qui commence par des bribes de récits du 19e siècle et qui petit à petit bascule vers des événements assez surréalistes qui sont produits au 20e siècle, et puis petit à petit bascule dans une sorte de fiction spéculative où j'imagine quelles seraient les potentielles conséquences de l'émergence d'une nouvelle terre en Méditerranée. Et donc, du coup, dans ce récit très, très elliptique, je mélange des témoignages réels, de la propagande impérialiste de l'époque, dans des langues très différentes, disons toutes les langues du canal de Sicile, qui sont en gros le sicilien, le maltais, l'arabe, le français, l'anglais, l'italien.
Tiens, pendant que vous parlez, je vous propose qu'on écoute un petit peu d'ailleurs.
Le terme lui-même, qui est un mot grec, qui désigne un discours, un récit, c'est un discours. On raconte quelque chose.
Ah, on a fait une petite erreur, c'est pas grave, je voulais qu'on écoute, je vous ai coupé la parole, tout est raté. Alors, on va écouter un petit peu.
Voilà. Stava rispondendo. A Madonna non ti se non se repete, non se cante.
It was 9 meters above the water. It was still erupting in smoke.
A mare c'erano i vortici, l'isola continuava a bugliere e a rebugliere.
Voilà, la multitude de langues, pardon, Clément Cogitor.
Oui, j'avais envie que toutes ces langues, et c'est aussi ces niveaux de récit, c'est-à-dire qu'on sent souvent dans les phrases elles-mêmes ou dans la manière dont elles sont prononcées, la langue dans laquelle elles sont prononcées, on arrive à les situer un peu quoi, entre des croyances populaires, des revendications, des observations scientifiques, mais que tout ça sont différents points de vue qui essayent soit de s'approprier, soit d'essayer de cohabiter avec un phénomène ou qui le redoutent ou qui spéculent dessus. Mais disons, j'ai essayé de travailler une sorte de narration du fragment, qui en même temps produit de la continuité, parce qu'il y a des choses qui se contredisent, il y en a qui se prolongent, il y a des motifs qui reviennent, c'est-à-dire que ça fait une ligne dramatique, mais en même temps, ce n'est que des bribes de quelque chose, comme si elle était, comment dire, l'histoire elle-même restait insaisissable, quoi. Et pareil à l'image, on voit des bribes de choses, mais on n'a jamais de tableau d'ensemble, et c'est ce que j'aime dans le travail de l'image, enfin, disons, du film, de l'image en mouvement au sens vraiment très, très large, c'est de travailler le fragment pour qu'une, l'image globale n'existe que dans l'imaginaire de celui ou de celle qui regarde le film.
Donc, il y a une multiplicité de récits, multiplicité de langues, comme vous l'avez dit, multiplicité d'images, et il y a donc, on va avoir les faits historiques, plus ou moins avéré en fonction des propagandes qui étaient à l'œuvre à l'époque, le travail des scientifiques, le travail des artistes, la fiction que vous amenez aussi, pour combler peut-être les trous d'ailleurs.
Alors la fiction, elle existe déjà dans la partie... dans la partie historique, c'est-à-dire c'est déjà chargé de fiction dès le 19e siècle, c'est-à-dire les écrivains eux-mêmes vont en injecter, la presse, des fois il va y avoir des fictions, des choses qu'on voudrait se raconter que c'est ça, des fois c'est on tord les faits pour que ça serve une cause coloniale ou idéologique ou impériale. Donc en fait moi je tire un fil de fiction qui existe déjà au 19e siècle, en fait j'en ajoute, mais je la prolonge, quoi.
Ouais. Mais alors les images sont, on parle du film, hein, là, bien sûr, qui est au cœur de l'exposition, un film de plus de 40 minutes, 42 minutes, voilà, et qui nous raconte toute cette histoire-là. Les images, d'où qu'elles viennent, vous les traitez de la même façon. Elles ont la même valeur, pour vous, la même vérité.
Ouais. Et là aussi, il y a... J'ai essayé de travailler sur un corpus d'images très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a des fois des images scientifiques très... très produites, tournées par des robots sous-marins. Des fois, c'est des images vidéo tournées par un smartphone. Des fois, c'est des archives que je suis allé retrouver dans certains fonds qui sont proches de certaines choses qui peuvent se produire, si on imagine la manière dont les choses se sont produites. Mais disons, il y a des ruptures très fortes de qualité d'image, de registre d'image. Et le film s'écrit au montage en essayant de trouver une cohérence et une continuité à tout ça, alors qu'en fait, c'est vraiment un matériau très hétérogène. Et je crois vraiment à la... Enfin, c'est un émerveillement pour moi à chaque fois de revenir dans la salle de montage et de voir à quel point l'outil du montage en fait permet de faire vivre ensemble des choses qui a priori n'ont rien, enfin ont tout en elles-mêmes qui les sépare, quoi, dans le signal, dans la manière dont elles sont produites, dans le nombre d'informations qu'elles peuvent donner, et que pourtant ça peut faire récit, quoi.
Ouais. Alors, mais pour le spectateur qui regarde. Puisque sur certaines images, on va avoir des dates, d'autres, on ne va pas forcément les avoir. Il y a un flou, comme ça, parfois, un petit trouble. Qu'est-ce que ça vous cherchez à provoquer? Qu'est-ce que ça provoque dans l'idéal, en fait?
En fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, les dates disparaissent.
Ouais.
Et elles apparaissent de moins en moins, et puis petit à petit, elles disparaissent vraiment. En tout cas, l'année. Donc, du coup, c'est difficile de faire une chronologie du début à la fin, mais le film joue à la chronique, comme ça, à établir la chronologie des faits, et puis petit à petit, s'en émancipe, mais pas de manière très... c'est assez imperceptible. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est produire du doute, en fait, de se dire je mettre en crise un peu le rapport de croyance qu'on a avec ce qu'on nous raconte, pour se laisser dans un état un peu flottant, de dire on accepte les choses, on sait que dedans tout est pas forcément vrai, il y a peut-être de la spéculation, de l'imaginaire, tout ça produit une espèce de mémoire du temps présent, parce que petit à petit on arrive dans le monde contemporain, et dedans, comme je pense dans la plupart des expériences qui, au bout d'un moment, se conservent dans notre mémoire, elles sont une sorte de mélange assez inextricable de faits et de fiction, de choses qu'on aurait aimé qu'elles se soient passées comme ça, on les a imaginées comme ça, on les a re-racontées comme ça, en les racontant, on modifie le souvenir qui du coup se fige dans cette modification, et avant d'être remodifié, ainsi de suite. Et ça m'intéresse beaucoup, se laisser flotter comme ça dans quelque chose qui est entre la réalité et la fiction, quoi.
Alors on parlait du souvenir et de comment on se le raconte et comment on crée de la mémoire. Je voudrais qu'on écoute cette fois-ci l'anthropologue Jean-Loïc Lequelec, c'était sur Arte en 2024.
Le terme lui-même, qui est un mot grec, qui désigne un discours, un récit, c'est un discours. On raconte quelque chose. Pour qu'il y ait mythe, il faut raconter une histoire. Je raconte quelque chose qui touche à des grandes questions qui intéressent l'humanité depuis toujours, du type, mais pourquoi il y a le monde? Pourquoi il y a des humains? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? On ne sait pas trop répondre à ces questions. Mais on a des histoires qui sont racontées lorsque ces questions-là sont posées. Lorsque ces questions sont posées, plutôt que de donner, essayer de rationaliser, donner une explication, on raconte une histoire qui va dévoiler une vérité sur le monde. Et pour moi, c'est ça, le mythe. C'est une histoire qui dévoile une vérité sur le monde en faisant appel à un événement situé dans un très lointain passé, un événement qui n'est survenu qu'une seule fois. Et à cause de la survenue de cet événement-là, eh bien, le monde est comme il est maintenant. Et c'est une structure qui est commune à une quantité de mythes. C'est-à-dire, vous avez un état antérieur du monde, un événement que décrit le mythe, qui renverse l'état des choses et qui justifie l'état présent du monde.
Alors voilà, Jean-Loïc Lequellec, l'anthropologue, qui parle du mythe. Le mythe est là pour expliquer les changements du monde. Et alors vous, finalement, vous vous appuyez sur ce premier changement pour en créer d'autres, Clément Cogitor.
Ouais, c'est comme si c'était une sorte de mécanisme sans fin, ouais. qui en produit d'autres. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi, enfin, ce sont des récits qui nous aident à vivre avec ce qu'on ne comprend pas ou ce qui, avec des grandes énigmes, et c'est aussi ce qui construit des communautés. Alors moi, j'ai l'impression qu'une communauté commence à partir du moment où des gens commencent à se raconter la même histoire et commencent à y croire. Et d'où les crises de récits ou des récits qui s'affrontent les uns les autres. Et en l'occurrence, sur Ferdinand Dea, on est constamment avec ces revendications impériales, en tout cas pour le 19e siècle, c'est chacun cherche à imposer son propre récit, sa propre chronologie des événements, et tout se contredit, tout se conteste. Et j'avais l'envie de petit à petit, à partir d'un événement qui n'a produit que de la séparation, de se dire, tiens, ici, le mécanisme devenait, dans la manière de raconter, de produire du commun, en fait. Et voilà, et c'est petit à petit vers ça que le film dérive, quoi.
Oui, alors, cette île, territoire fascinant, auquel on tourne autour, tout le monde tourne autour, c'est-à-dire vous tournez énormément autour, on a tourné autour dans les années, au 19e siècle, et en même temps, elle est complètement imprévisible, elle rend fou, elle résiste, en fait.
Oui, il y a quelque chose qui est... c'est une sorte de métaphore un peu... l'absurdité des logiques d'appropriation, en fait. La terre n'est pas encore solide que déjà on plante un drapeau, on enlève le drapeau qui a déjà été planté. Donc il y a une sorte de petit théâtre de l'absurde sur les vérités impériales. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où finalement ces velléités-là du 19e siècle nous paraissent assez raisonnables et assez rationnelles quand on entend le forum de Davos. Depuis hier, ça paraît. C'est-à-dire que c'est comme si la fiction, elle était assez limitée pour rejoindre ce niveau-là. Et du coup, oui, rétrospectivement, ça paraît beaucoup moins absurde que ce qu'on peut vivre ou entendre aujourd'hui.
Alors, il y a des histoires quand même, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, parce qu'il y a des faits historiques qu'on ne connaît pas quand même. Il y a ces images du bombardement américain en 86 qui pensent atteindre des sous-marins libyens. En fait, ils avaient repéré des fumerolles de l'île. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire. Vous avez découvert énormément de choses, en fait.
Mon équipe et moi, on a quand même pas mal travaillé dans la documentation, dans toutes les occurrences qui ont pu avoir lieu. Et en fait, il y en a un peu plus que ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que j'ai pas tout mis. Mais oui, il y a cette espèce d'histoire étrange où des avions américains, en réponse à un attentat sur une base américaine...
À Berlin,
enfin en tout cas contre des soldats américains, ils vont bombarder Tripoli, et sur le chemin du retour, en fait, ils tombent sur des colonnes de fumée en haute mer. Et en fait, ils savent qu'il y a des sous-marins soviétiques qui appartiennent à Kadhafi, qui viennent d'être livrés par l'Union soviétique, et ils ont peur qu'ils soient en mer et qu'il y ait une réplique militaire, et donc ils bombardent. Sauf qu'ils bombardent, en gros, une île effondrée sous-marine qui a quelques mètres sous le niveau de la mer. Et là aussi, il y a une sorte de dimension un peu absurde, quoi.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une zone, et c'est ce qui vous a amené, puisque ce film va dans le contemporain le plus pur aujourd'hui, pour ensuite aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'extrapolation peut-être. Mais donc, cette île, aujourd'hui, elle est au carrefour d'énormément de tensions.
Oui, ça c'est une dimension qui m'a vraiment passionné, dans la mesure où Aujourd'hui, si on prend la carte de la Méditerranée, on se dit quel est l'endroit le plus explosif. En gros, c'est là. C'est-à-dire que c'est le passage du pétrole. Disons, par le canal de Suez, ensuite on arrive dans le canal de Sicile. C'est le passage du gaz entre qui vient du Maghreb ou d'Algérie et qui monte vers l'Europe. C'est le passage aussi des câbles de données sous-marins. C'est le passage de la migration. C'est le passage de la drogue. Et donc c'est une zone qui est très très convoitée et du coup c'est d'autant plus vertigineux d'imaginer tiens si une nouvelle terre apparaissait à cet endroit-là d'en imaginer les conséquences.
Comment vous êtes passé quand même de cette idée avec cette masse de choses historiques de récits comment vous en êtes arrivé à basculer vers cette idée tiens et si comment on fait ce passage là
J'ai interrogé beaucoup de gens ça peut être des juristes par exemple des gens comment ça s'appelle le tribunal international de la mer sur la question du rocher à quel moment on parle de souveraineté quelle est la taille minimale la question des eaux internationales enfin en fait c'est un gros travail de documentation d'essayer de comprendre et donc du coup c'est on accumule enfin un peu comme tout travail de fiction quoi on commence à s'intéresser à un sujet sur lequel on a une culture générale plus ou moins grande mais on va commencer à rentrer dans le détail et tout d'un coup on va avoir une information on se dit ah tiens ça c'est un point potentiel enfin d'achoppement ou qui peut produire des images ou qui peut produire une tension dramatique et à partir de ce moment-là on sélectionne des petites portions de toute cette documentation qu'on rassemble. Et de fait, c'est assez passionnant, en fait, la question des eaux internationales, des eaux territoriales, à quel moment ça commence, comment la propriété, en fait, s'inscrit dans une carte maritime. Quoi.
Alors, quand vous commencez justement à y réfléchir, on se retrouve avec une nature qui reprend ses droits, qui devient très très menaçante, des gens qui ont peur, qui disent il y a toute une partie sur des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a des séismes, la Méditerranée devient dangereuse, il y a une guerre de territoire imminente qui est effectivement la suite assez logique de ce que vous décrivez à l'instant. Vous imaginez aussi même que l'île peut devenir un centre de rétention pour personnes réfugiées. Elle serait un révélateur, en fait, cette île, c'est ça ?
Oui, je pense, ouais. Je pense que En fait, il y a plusieurs moments où il y a différents projets qui s'élaborent sans qu'aucun devienne vraiment concret.
C'est des possibilités.
Des possibilités qui flottent comme ça, et des choses plus ou moins monstrueuses, et des choses plus ou moins utopiques qui pourraient se projeter sur une nouvelle terre.
Mais globalement, on n'est pas très optimiste quand même.
On n'est pas très optimiste, mais il y a toujours un peu de lumière, quoi. Voilà.
Ouais,
c'est pas la lumière qui règne, mais le peu qu'il y a, je pense, brille beaucoup.
Vous êtes plasticien, vous êtes cinéaste, vous êtes metteur en scène. C'est une question qui peut paraître banale, mais quand même, quand on a cette idée-là, quand on découvre cette île, vous l'avez d'ailleurs découvert par hasard, c'est ça, hein ? Vous avez trouvé cette histoire chez un bouquiniste ?
Ouais, c'est ça, à Palerme, un ouvrage qui est en fait le plus intéressant qui a été écrit sur cette histoire-là, qui s'appelle « Dell'isola Ferdinandea di altre cose » de Salvatore Mazzarella, aux éditions Celerio. Et en fait, c'est un ouvrage qui compile principalement des documents du 19e siècle, qu'on a retrouvés pour la plupart, parce qu'ils sont dans des archives italiennes. Mais la manière lui-même qu'il a de les assembler est vraiment intéressante, et puis le commentaire qu'il en fait. Et puis petit à petit, en plongeant là-dedans, je me suis dit, mais cette histoire-là, j'ai vraiment envie de la raconter à ma manière, et aussi d'en imaginer des images possibles. Quoi.
Alors, mais à votre manière, c'était une exposition.
Ouais.
Ça ne pouvait pas être un film.
Un film, ce serait.
Il y a un film, évidemment, mais il y a plusieurs salles de l'exposition en plus.
Dans l'exposition, il y a trois films, il y a plusieurs photographies, puis il y a tous ces documents. Mais disons, la forme, long métrage, cinéma, le film d'aventure avec bateau et compagnie, c'est cher. Aujourd'hui, ce serait plus faisable. Et je ne sais pas si j'aurais envie de le faire. Mais par contre, de dire, tiens, on va travailler autrement, et notamment, par exemple, la question de travailler la question du spectaculaire. C'est-à-dire qu'au début, j'avais envie d'images beaucoup plus... et même, j'en avais tourné, ou j'en avais retrouvé dans des... soit qui avaient été produites avant par des scientifiques, soit moi-même des choses que j'avais faites. Disons, j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Et petit à petit, en montage, avec Benjamin Mirguet, le monteur, on a petit à petit comme descendu les curseurs un petit peu pour que ça prenne quelque chose de moins... Que l'image elle-même soit pas tant un événement, mais que ça devienne une chose beaucoup plus mentale, en fait, beaucoup plus spectrale. Et, et que l'impact soit plutôt par ce récit fragmenté plutôt que par une suite d'images spectaculaires, parce que sur des volcans sous-marins, ainsi de suite, on peut en faire.
Oui, on peut en faire.
On peut faire un documentaire Netflix assez sidérant, mais c'était pas l'enjeu.
Et ou donc, du Werner Herzog, quoi.
Oui, voilà. Ouais, pour le coup, ça il le fait bien.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que le contemporain, les conflits dans votre travail, Clément Cogitor, c'est toujours là, hein, c'est quel que soit le support que vous avez, et en même temps, effectivement, il y a toujours une part de surnaturel qui, alors c'est votre part aussi utopiste peut-être qui s'exprime là, mais c'est ça le boulot pour vous d'un artiste, c'est d'apporter cette couche de fiction qui serait la fameuse incertitude, pour reprendre votre titre, c'est ça.
Alors non, c'est pas aussi conscient, c'est juste ma manière de
c'est
faire
votre
les
manière
choses.
À vous de voir ça. Les choses.
Il y a des trucs qui reviennent et la contamination des choses par la fiction en fait partie. Et une obsession pour la question de la géopolitique, mais parfois à l'échelle, soit d'une petite île, soit quand j'ai fait, je sais pas, Bragino. Sibérie, c'est des questions géopolitiques, mais c'est qui sont des manières de comment est-ce qu'on habite la Terre et comment est-ce qu'on produit du commun, comment naît le conflit et comment naît la communauté, mais qui sont des questions vraiment, enfin, à la fois monumentales et en même temps, quand on les réduit à un tout petit nombre de personnes sur un tout petit bout de terre, ça peut commencer à produire du théâtre ou du cinéma ou un récit qui est fabricable et qu'on peut partager, quoi.
Et vous, en tant qu'artiste, d'aller sur les enjeux comme ça de comment on se rencontre, comment on fait communauté, comment on se raconte des récits collectifs. Vous, Clément Cogitor, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est d'une quelconque aide? C'est quelque chose qui vous aide à vous placer ou à vous déplacer dans le monde?
Disons que c'est des interrogations qui parfois deviennent obsessionnelles ou parfois se déplacent en fonction des situations auxquelles je suis confronté. Mais la dimension documentaire m'intéresse beaucoup parce que c'est celle qui déplace le plus, en fait.
Ouais.
Quand on est moins maître des événements et qu'on est plus dans l'observation, et en même temps, il y a aussi cette dimension-là dans un tournage de fiction dont on maîtrise pas tous les éléments en studio, ou même, il y a certains cinéastes comme, je sais pas, Bertrand Mandico qui ne tourne qu'en studio, mais où les tournages sont très chaotiques et qui permettent de produire de l'accident et du coup d'observer la vie de ces accidents. Enfin, c'est moi une des choses qui m'émerveille le plus quand je suis quelque part avec une caméra, avec l'idée de filmer et de raconter quelque chose, c'est ce mélange assez tendu qui est en fait assez inconfortable entre ce qu'on cherche à capter et puis l'aléatoire, l'accident qui se produit devant nous et avec lequel on va devoir composer, quoi.
Merci beaucoup Clément Cogitor, on va s'arrêter là.
Merci
d'être venu dans les midis. Votre exposition Ferdinand Dea, l'île éphémère, c'est au Mucem à Marseille jusqu'au mois septembre prochain. On écoute Andrea Laszlo de Simone et La Notte.
Giorno ma non ha vento e pioggia e tutti quanti ci fai l'amore ed io vorrei tornare al tempo della mia prima volta quando si godeva ancora mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera e ero sconvolto dal dolore abbandonato nella mia sventura. Se c'è qualcuno che non ha paura, io prego.
Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy et Zora Vignier. Merci à toute l'équipe. Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Marceau Vassy, Margot Chaboch. À la réalisation, Laurence Malonda et Grégory Wallon à la technique.